Chapitre 12. Ils étaient assis dans le séjour et attendaient la future mariée. En proie à la nervosité, Patrick se tordait les mains.
« Sois patient, mon garçon !»
dit Max, en venant le prendre par l'épaule.
« Elle finira par arriver. Il est normal qu'une femme veuille être à son avantage le jour de ses noces. »«
Pas moi !» fit Éponine. « Je ne me rappelle même pas comment j'étais habillée. »
« Moi, je m'en souviens. Dans l'igloo, tu portais la même tenue qu'au moment de ta naissance. »
Tous rirent, puis Nicole entra dans la pièce.
« Elle ne va pas tarder. » Ali l'aide à ajuster sa robe.
Elle regarda de toutes parts.
« Où sont Archie et le docteur Bleu ?»«
Ils ont fait un saut chez eux pour aller chercher un cadeau, »
dit Ali.
« Je voudrais qu'il reste, »
déclara Galilée sur un ton mauvais.
« Il me donne la chair de poule. »
« À partir de la semaine prochaine, vous aurez une octo avec vous presque à longueur de temps, »
lui dit gentiment Ali.
« Elle vous enseignera leur langage. »«
Je ne tiens pas à savoir ce qu'ils racontent. »
Max alla rejoindre Richard.
« Alors, amigo, et ce boulot? On ne vous a pas vu souvent depuis 15 jours. »«
C'est passionnant. Je travaille sur un projet d'encyclopédie. » Je les aide à concevoir des logiciels permettant de consulter les informations qui se rapportent aux centaines de milliers d'espèces de la banque d'embryons. Les octopodes accumulent énormément de données mais ne savent pas y accéder efficacement. Hier, j'ai commencé des essais sur des agents microbiologiques classifiés, selon la taxonomie de nos hôtes, en fonction du nombre de plantes et d'animaux pour lesquels ils sont mortels. Il s'interrompit. Archie et le docteur Bleu entrer avec un objet haut de 2 mètres, enveloppé de parchemin. Ils le déposèrent dans un angle puis s'écartèrent. Un instant plus tard, Ali arrivait en fredonnant la marche nuptiale de Mendelssohn, suivie par Naï. La mariée portait sa robe de soie taille, ornée de fleurs jaunes et noires, fournies par les octopodes. Patrick alla se placer à côté d'elle, devant sa mère. Nicole avait été chargée de célébrer la cérémonie le plus simplement possible. Elle se préparait à faire une brève allocution lorsqu'elle se rappela de précédents mariages. Elle revit Max et Éponine, Michael O'Toole et sa fille Simone, Robert et Ali. Elle frissonna quand des souvenirs de détonation envahirent son esprit.
Nous voici une fois de plus réunis.
Ce qu'elle éprouvait l'empêchait de se concentrer.
C'est le dernier mariage auquel j'assiste.
Une larme coula sur sa joue.
Est-ce que ça va?
Lui demanda la future mariée. Nicole hocha la tête et sourit.
Mes amis, nous voici réunis pour les noces de Patrick Ryan O'Toole et de Naï Boitong Watanabe. Formons un cercle autour d'eux et tenons-nous par les bras pour symboliser l'amour et le soutien que nous leur apportons. »
Nicole fit un signe aux octopodes qui vinrent entourer les humains de leurs tentacules.
« Patrick, veux-tu prendre Naï pour épouse et l'aimer et l'honorer tout au long de ta vie ?»«
Oui. »
« Et vous, Naï, voulez-vous prendre Patrick pour époux et l'aimer et l'honorer tout au long de votre vie ?»
Oui.
Alors je vous déclare unis par les liens du mariage.
Le couple s'embrassa sous une ovation générale.
As-tu fait les recommandations d'usage à Patrick ?
Demanda Nicole à Richard après le départ des invités.
Non. Max s'est porté volontaire, mais j'ai estimé que c'était superflu. Naï a déjà eu un mari. Au fait,
je t'ai trouvé bien émotive aujourd'hui.
Qu'est-ce qui t'a pris ?
Elle sourit.
J'ai pensé à Simone et Michael, Ali et Robert.
Voilà un mariage que je préférerais oublier.
J'ai cru que je pleurerais parce que c'était probablement la dernière cérémonie nuptiale à laquelle j'assistais, mais il y avait une autre raison. Ça ne t'ennuie pas que nous nous soyons unis sans témoin ?
Non. Je me suis marié en grande pompe avec Sarah Et ça m'a suffi.
C'est ça qui t'a attristé à ce point?
Ça se pourrait.
La statue de Bouddha que les Hopto ont offerte à Nai était magnifique. J'ai eu l'impression qu'Archi et le docteur Bleu s'amusaient vraiment, et j'ai été surprise que Jamie soit passé les chercher si tôt.
Veux-tu qu'on se marie comme eux? Demanda-t-il à brûle-pourpoint.
À nos âges?
Pourquoi pas, si ça te fait plaisir.
Serait-ce une proposition?
En quelque sorte. Je ne veux pas que tu aies des regrets parce que tu n'as pas été une jeune mariée.
Être une vieille mariée serait amusant,
dit-elle en allant l'embrasser.
Mais attendons la fin de la lune de miel de Patrick et de Nai. Je ne voudrais pas leur voler la vedette.
Ils se dirigèrent vers leur chambre et sursautèrent en voyant Archie et le docteur Bleu leur barrer le passage.
Vous devez nous suivre,
dit Archie.
C'est une urgence.
Maintenant ? Répliqua Nicole.
À 7 heures ? Oui, le maître optimiseur vous attend. Il vous expliquera tout.
Nicole sentit son cœur s'emballer sous l'effet de l'adrénaline.
Me faut-il un manteau ? Allons-nous sortir de la ville ?
Elle pensait qu'il devait exister un rapport entre cette convocation et les pleurs que Richard avait entendus dans le zoo. Le bébé était-il malade? En ce cas, pourquoi ne se dirigeait-il pas vers le domaine de l'alternative? Le maître optimiseur et son équipe attendaient dans une salle où il y avait 2 sièges. Dès que Richard et Nicole furent assis, le chef des octopodes leur dit « Nous sommes en situation de crise? Une crise qui pourrait aboutir à une guerre entre nos espèces ?» Il agita un tentacule et des images apparurent sur le mur. Ce matin, 2 hélicoptères ont transporté des militaires humains stationnés sur l'île de New York vers le secteur nord de notre domaine. Les enregistrements des quadroïdes démontrent que vos semblables s'apprêtent à lancer un assaut contre nous et que leur chef les a convaincus que nous sommes les ennemis de votre peuple. Nakamura a obtenu le soutien du Sénat et s'est doté d'un arsenal assez important pour raser notre colonie. Il s'interrompit afin de laisser Richard et Nicole regarder des clichés pris dans des usines du Nouvel Éden où on fabriquait des bazookas, des bombes et des fusils mitrailleurs. Au cours de ces 4 derniers jours, des détachements héliportés ont effectué des missions de reconnaissance jusqu'à la forêt. Tout le secteur qui va de son orée à la berge de la mer cylindrique est placé sous leur contrôle. Près de 30% de notre approvisionnement en nourriture, en énergie et en eau provient de cette région. Il n'y a pas eu d'accrochage, car nous n'avons opposé aucune résistance, mais nous avons installé des panneaux informant les humains que l'hémicylindre sud appartient à une espèce évoluée pacifique et qu'ils doivent regagner leur secteur. Ils n'en ont pas fait cas. Le premier incident grave a eu lieu voilà 2 jours. Un hélicoptère s'est posé à proximité d'un champ de céréales que vos semblables ont incendié après avoir tué 3 fourmis moissonneuses. Nous avons modifié la teneur de nos messages et précisé qu'un autre acte de ce genre serait assimilé à une déclaration de guerre. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui indique que les hommes souhaitent déclencher ce conflit. J'ai envisagé de proclamer la mobilisation générale. Un événement aux conséquences très graves au sein de notre société, mais avant de prendre une telle décision, j'ai consulté les optimiseurs que j'estime le plus. La majorité était favorable à une ouverture des hostilités, car ils ne voyaient pas comment convaincre vos semblables qu'un affrontement les conduirait au désastre. Archie a toutefois fait une proposition intéressante. Bien que les calculs des probabilités indiquent qu'une guerre est pratiquement inéluctable, nous devons par principe tout faire pour tenter de l'éviter. Je vous ai convoqué, car votre coopération sera indispensable. Le maître optimiseur s'écarta et Archie vint le remplacer au centre de la salle.
Je me suis porté volontaire pour négocier avec vos chefs dans l'espoir
d'éviter cette catastrophe. Pour cela, j'ai besoin de votre aide. Si j'approche seul du camp humain, les soldats me tueront. Même s'ils m'épargnent, ils ne pourront me comprendre. Voilà pourquoi un de vos semblables connaissant notre langage doit m'accompagner pour traduire mes couleurs. Faute de quoi il sera impossible d'entamer un dialogue.
Quand Richard et Nicole eurent déclaré qu'ils soutenaient cette proposition, ils restèrent seuls avec Archie pour régler les points de détail. Le plan était simple. L'octopode et Nicole approcheraient du camp installé sur la berge de la mer cylindrique et demanderaient à rencontrer Nakamura. Ils expliqueraient que les octopodes étaient des êtres pacifiques qui n'avaient aucune revendication territoriale sur l'hémisphère nord de Rama. Archie réclamerait que les hommes évacuent leur territoire. En gage d'amitié, son peuple fournirait des vivres aux humains pour les aider à surmonter leurs difficultés actuelles. Des relations permanentes seraient établies entre les deux espèces et un traité scellerait cet accord. Seigneur, et dire que je trouvais Nicole trop idéaliste, s'exclama Richard. L'octopode n'avait pas compris le sens de cette remarque. Nicole lui expliqua que les chefs du Nouvel Éden n'étaient pas aussi raisonnables qu'il semblait le supposer.
Il n'est pas à exclure qu'il nous fasse exécuter sans nous laisser le temps d'ouvrir la bouche.
Archie affirma qu'il négocierait parce que c'était dans l'intérêt de tous.
C'est faux, rétorqua Richard avec irritation.
Nakamura se fiche de l'avenir de la colonie. Il ne pense qu'à lui, pas aux gens qu'il gouverne. Cet homme et ses acolytes cherchent uniquement à accroître leur puissance. Notre histoire démontre que bien des chefs n'ont pas hésité à plonger leur pays dans le chaos, uniquement pour rester au pouvoir.
L'octopode refusait de l'admettre.
C'est impossible, au sein d'une société évoluée. En fonction des lois fondamentales de l'évolution, les espèces individualistes n'ont aucun avenir. Laisseriez-vous entendre que l'humanité est une anomalie, une aberration de la nature qui...
Votre conversation est passionnante,
les interrompit Nicole.
Mais il me semble que nous avons des questions plus urgentes à régler. Nous devons décider d'un plan d'action. Richard, si le projet d'Archie te laisse sceptique, qu'as-tu à proposer ?
Il s'accorda un moment de réflexion avant de répondre. Nakamura veut déclencher cette guerre pour faire oublier au peuple l'échec de sa politique. Il ne reviendra sur sa décision que si la population refuse de se battre. Et elle ne le fera que si nous la persuadons qu'elle va droit au désastre.
Tu penses à des menaces ?
Une démonstration de force serait plus convaincante.
Je crains que ce ne soit impossible,
dit Archie.
Pas dans les circonstances actuelles.
Pourquoi ? Le maître optimiseur affirme que votre victoire est assurée. Il suffirait d'attaquer ce camp et de le raser pour...
Vous ne comprenez pas ? Parce qu'une guerre ou toute action visant à éliminer délibérément des êtres vivants n'est pas un moyen optimal pour résoudre un différend, des règles très strictes s'y appliquent. Nous n'avons par exemple ni armée permanente, ni stock d'armement. Par ailleurs, les optimiseurs qui se prononcent en faveur d'un déclenchement des hostilités et tous les octopodes qui participent à des opérations offensives sont éliminés dès que la paix est revenue.
Quoi ? S'exclama Richard. C'est ridicule.
C'est notre loi, et vous comprendrez aisément que cela n'incite pas à lancer des actions autres que défensives. Le maître optimiseur a signé son arrêt de mort en autorisant les préparatifs de guerre il y a 2 semaines. Les 80 octopodes qui travaillent à l'arsenal seront eux aussi éliminés à la fin du conflit ou quand tout danger aura disparu. Étant donné que j'ai participé aux discussions d'aujourd'hui, mon nom sera porté sur la liste d'attente dès le déclenchement des hostilités.
Richard et Nicole en restèrent sans voix.
Pour nous,
ajouta Archie,
La seule justification valable est une menace sans équivoque pour la survie de notre colonie. Nous subissons alors une métamorphose et menons ensuite une guerre sans merci jusqu'à la disparition totale de nos adversaires ou de nous-mêmes. Il y a longtemps, les sages ont compris que les individus qui avaient tué ou donné l'ordre de tuer étaient à tel point marqués psychologiquement par cette expérience qu'ils n'avaient plus leur place au sein de notre société en temps de paix. C'est la raison de la clause d'élimination.
Après un long silence, Richard voulut demander à Archie de les laisser seuls afin de pouvoir s'entretenir en privé avec sa femme. Il s'en abstint après s'être souvenu que les quadroïdes étaient omniprésents.
Nicole, le plan d'Archie a quelques défauts. En premier lieu, il vaudrait mieux que ce soit moi qui l'accompagne.
Elle ouvrit la bouche pour protester, mais il leva la main.
Écoute-moi pour une fois.
Depuis que nous sommes mariés, tu as consacré tout ton temps et toute ton énergie à notre collectivité. C'est mon tour à présent. Je suis mieux placé que toi pour effrayer nos semblables en leur décrivant des scènes d'apocalypse.
Mais ta maîtrise du langage des octopodes est moins bonne que la mienne, sans ton interprète.
Voilà pourquoi Ali et Nikki devraient nous accompagner. S'il y a un enfant avec nous, je doute que les humains ouvrent le feu. Deuxièmement, Ali me remplacera si mon appareil ne remplit pas correctement ses fonctions ou si j'en suis privé. Troisièmement, le seul crime que Nakamura et les siens peuvent attribuer aux octopodes est l'enlèvement d'Ali. Si elle réapparaît saine et sauve en vantant les mérites des extraterrestres, rien ne justifiera la poursuite de représailles. Nicole se renfrogna.
Mais les Nikki à tout ceci ne me plaît guère. C'est trop dangereux. Je ne me le pardonnerai jamais s'il lui arrivait malheur.
Moi non plus. Mais je doute qu'Ali accepte de partir sans sa fille. Et en l'absence d'un projet idéal, il faut se contenter du moins insatisfaisant.
Ses arguments sont valables, fit remarquer Archie.
Et il existe une autre raison pour que vous restiez ici. Vos compagnons auront besoin de vous.
Nicole était prise au dépourvu. Elle n'avait pas envisagé que son mari se porterait volontaire.
Dois-je en déduire que vous approuvez les suggestions de Richard? Y compris en ce qui concerne Ali et Nikki?
Oui, répondit l'octopode.
Mais Richard, tu as la politique en horreur. As-tu bien réfléchi?
Il hocha la tête et elle haussa les épaules.
Entendu. Nous en parlerons à Ali.
Le maître optimiseur estimait que ce projet pourrait aboutir, mais il leur rappela que selon les calculs des probabilités, les chances de survie d'Archie et de Richard étaient infimes.
Nicole fut peu prolixe pendant que les principaux intéressés réglaient tous les détails. Quand elle entendit son mari annoncer à Archie qu'il partirait inter après le lever du jour suivant, elle frissonna.
Demain,
pensa-t-elle.
Demain, nos existences seront une fois de plus bouleversées.
Elle ne dit mot dans le véhicule qui les ramenait vers leur secteur. Alors que Richard et Archie abordaient différents sujets, elle essaya de surmonter ses craintes. Une voix intérieure lui répétait qu'elle ne reverrait jamais son mari.
N'ai-je pas cette réaction parce que je suis jalouse qu'il me vole la vedette?
Son angoisse grandissait, en dépit de ses tentatives pour la combattre, pendant que Richard demandait
« Si vous n'avez ni armes ni soldats, comment pouvez-vous espérer organiser rapidement votre défense ?»«
Je ne puis vous le révéler, » répondit Archie. « Mais je sais qu'un conflit entraînerait la disparition totale de l'humanité dans Rama. »
Nicole ne pouvait vaincre ses peurs. Elle se pencha pour prendre la main de son mari, qui poursuivait sa conversation avec Archie. Elle le dévisagea.
Je suis fière de toi, mais également effrayée.
Des larmes brouillaient sa vision.
Je ne pourrais supporter de te perdre.
Il était très tard lorsqu'elle se coucha. Elle avait éveillé Ali sans déranger Nicky et les jumeaux que les Wakefield avaient pris chez eux pour la nuit de noces de leur mère. Leur fille avait naturellement de nombreuses questions à leur poser. Il lui avait exposé la situation et leurs plans. Malgré ses craintes, Ali avait décidé d'accompagner son père et Archie avec sa fille. Le sommeil de Nicole était agité. Elle se chercha une position plus confortable pendant une heure, puis elle fit des rêves brefs et chaotiques. Elle se retrouva à l'âge de 7 ans, en Côte d'Ivoire, lors de la cérémonie du Poro. Elle était dans la mare à moitié nue, et la lionne rôdait sur la rive. Elle prit une inspiration et plongea. Lorsqu'elle refit surface, Richard avait remplacé le félin sur la berge. Il était jeune et souriant, mais il vieillissait rapidement. Quand il eut son âge actuel, elle entendit la voix d'Omé.
« Regarde bien, Renata, et souviens-toi !»
Elle s'éveilla en sursaut. Richard dormait paisiblement. Elle s'assit dans le lit et tapota la cloison. Une luciole apparut sur le seuil et éclaira faiblement la chambre. Nicole dévisagea son mari. Elle se rappela l'époque où sa barbe et ses cheveux gris avaient été bruns. Elle se souvint avec nostalgie de la cour qu'il lui avait faite à New York. Elle effleura ses lèvres du bout des doigts. Il ne bougea pas, et elle resta ainsi plusieurs minutes, le temps de graver ses traits dans son esprit. Des larmes coulaient sur ses joues.
« Je t'aime, Richard, »
murmura-t-elle.